Donc, en introduction de... Je vais relire le passage de la semaine dernière. Donc, c'est dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Et donc, nous avions lu à partir du verset 50. On va refaire cette lecture. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Voilà, la semaine dernière, on a vu ensemble que Jésus a béni ses disciples, hein, au verset 51, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. Donc on avait vu que la dernière intention de Jésus, pendant même qu'il montait au ciel, avant de quitter ses disciples, c'était de les bénir. Et puis, on avait insisté sur ça et la semaine dernière, sur le fait que Dieu nous bénit. Et Dieu aime nous bénir, que le peuple de Dieu est béni et qu'il nous a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et puis ce soir, le deuxième volet se situe au verset 53. Si le Seigneur nous a bénis, on voit aussi que les disciples étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Et nous sommes nous aussi appelés à bénir le Seigneur et c'est ce que nous allons voir ce soir. Mais pas seulement appelés à bénir le Seigneur, nous sommes appelés à nous bénir les uns les autres. Alors, je rappelle juste une définition, c'est que le verbe bénir signifie dire du bien ou faire du bien. Et à l'inverse, maudire, c'est dire du mal. Alors, nous sommes appelés à bénir Dieu. Et alors, dans la Bible, il y a bien sûr beaucoup de passages. J'aimerais juste lire le début du psaume 34. Le début du psaume 34, c'est un psaume de David. À partir du premier verset, c'est David lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Alors ici, David a pu écrire « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Donc cette expression « en tout temps » sur laquelle on va s'arrêter un petit peu. David a écrit ce verset alors qu'il est dans une situation difficile, périlleuse, et le verset premier nous donne dans quelles circonstances David a écrit ce psaume. Il l'a écrit alors qu'il faisait l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. David était en danger de mort. Et non seulement pourchassé par Saül, mais aussi Abimélec aurait pu en découdre avec David. Il cherchait à atteindre la vie de David. Et l'idée que David a eue à ce moment-là, c'est de faire le fou. Hein, on connaît ce passage. Et donc David a échappé à Abimélec en simulant d'être un fou. Et il a donc été expulsé. Et donc on voit que David est dans une situation périlleuse, il est en danger de mort, mais il trouve quand même la force de bénir l'Éternel. Il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Même dans ce moment-là, il bénit son Seigneur. Et David s'est retrouvé maintes fois en difficulté, dans des situations de danger, de persécution, ou alors il a vécu des drames personnels, des drames familiaux aussi, difficiles à vivre à tel point même qu'à un moment donné, c'est son propre fils qui va chercher à le tuer. C'est terrible de vivre une telle chose. Donc David a connu plusieurs fois des choses difficiles à vivre, mais quand même, il bénissait l'Éternel. Alors, non seulement David bénissait l'Éternel, mais David n'était pas un homme insensible. On le voit dans les psaumes, David était un homme qui pleurait. David était un homme aussi qui savait se tenir dans la prière. David était un homme qui implorait, qui suppliait Dieu. Mais ses supplications, ses larmes, étaient accompagnées d'actions de grâce. Il bénissait encore le Seigneur. Et c'est dans la situation parfois dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes dans les larmes. C'est faux de dire qu'un chrétien ne peut pas connaître de sujets de tristesse. Nous en connaissons, nous ne sommes pas insensibles. Bien au contraire, je dirais même, puisque l'amour de Jésus est dans nos cœurs, il y a des choses qui nous touchent peut-être encore plus qu'avant. Peut-être on était plus insensible, plus indifférent avant de connaître le Seigneur, mais maintenant il y a des choses qui nous touchent. Mais dans ces moments d'épreuve, ces moments de difficulté, eh bien, nous pouvons encore bénir le Seigneur. Un autre exemple que nous connaissons bien, c'est celui de Job. Job qui bénissait encore le Seigneur. Le livre de Job, c'est juste avant les psaumes. On va voir aussi que Job, comme David, bénissait l'Éternel en tout temps. Au chapitre 1er, verset 20, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit : Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, c'est intéressant de noter, on n'a pas lu tout le chapitre premier, mais c'est seulement lorsque un serviteur va venir pour lui annoncer que tous ses enfants sont morts, c'est à ce moment-là que Job a déchiré son manteau, s'est rasé la tête, s'est jeté par terre et s'est prosterné et a prononcé ces paroles que nous venons de dire. Il ne l'a pas fait lorsque il a perdu tout son bétail, lorsqu'il a perdu tous ses biens. Bon, tout ça, il ne l'a pas fait. Mais on peut comprendre qu'il l'ait fait lorsque il a connu ce drame que nous ne souhaitons à personne. C'est terrible. Il a perdu ses enfants dans une catastrophe et tous ses enfants le même jour. Donc il a vécu un drame terrible. Et c'est à ce moment-là donc qu'il va déchirer ses vêtements, qu'il va se raser la tête et qu'il va se jeter par terre et se prosterner. Alors c'est typiquement oriental cette façon de faire, mais ça nous montre à quel point Job était profondément touché, profondément tourmenté à cause de ce qui venait de se passer. Mais néanmoins, Job dira que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et au verset 22 que nous n'avons pas lu, mais je vais le lire maintenant, il est écrit ceci: en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Rien d'attribué d'injuste. Et quand on attribue quelque chose d'injuste à Dieu, on n'est pas en train de le bénir. On n'est pas en train de le bénir. Et Job a béni quand même le Seigneur. Quand on commence à s'en prendre au Seigneur, là on dit du mal de lui. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et Job ne comprenait pas ce qui lui arrive. D'ailleurs ça ressort fortement lorsqu'on lit tout le livre de Job. Il y a des choses qui l'échappaient, il ne comprenait pas le chemin par lequel il passait. Mais néanmoins il n'a rien attribué d'injuste à Dieu. Il a continué à bénir son Seigneur, même quand sa propre femme l'inviter à maudire Dieu au chapitre 2, verset 9. Alors, entre-temps, au début du chapitre 2, Satan est revenu à la charge contre Job et donc il est tombé malade. Et au verset 9, son épouse lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Voilà. Et Job lui répondit « Tu parles comme une femme insensée, quoi nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. » Donc, on voit que son épouse a vécu le même drame, elle a réagi autrement. Bon, on ne veut pas lui jeter la pierre parce que ce qu'il venait de vivre était terrible, mais Job est resté intègre et Job est resté dans la confiance en Dieu, même s'il ne comprenait pas. Son épouse l'invitait à maudire Dieu, c'est-à-dire à dire du mal de Dieu, à maudire et à mourir. Elle l'invite au suicide, quoi, j'allais dire en d'autres mots, elle n'a plus qu'à mourir maintenant. Donc voilà ce à quoi son épouse l'invite à faire. Mais Job, lui, a continué à bénir le Seigneur et il n'a point péché par ses lèvres. S'il avait dit du mal de Dieu, il aurait péché. Et dire du mal de Dieu, c'est pécher par nos lèvres. Et bien sûr, nous voulons plus que tout que le Seigneur soit glorifié dans nos cœurs et dans nos bouches. On a d'autres exemples dans la parole de Dieu, hein, comme par exemple le cas de Paul et Silas qui, dans la prison, priaient et louaient le Seigneur. Alors, ils priaient, bien sûr, parce qu'ils étaient en situation difficile, mais aussi, ils louaient le Seigneur. On a l'exemple de Daniel aussi, il avait cette menace d'être jeté dans la fosse aux lions, mais il nous est dit que Daniel a continué à prier et à louer son Seigneur comme il le faisait auparavant. Donc malgré les menaces, il a continué à bénir le Seigneur. J'aimerais maintenant lire un texte dans le psaume 103. Le psaume 103, encore un psaume intéressant, un psaume de David toujours. Il dit ceci: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Voilà, c'était tellement fort dans le cœur de David, et un homme selon le cœur de Dieu, hein, comme il est écrit ailleurs, qui dit que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. À tout. Que tout ce qui est en lui bénisse le saint nom du Seigneur. Pas simplement une petite partie. Hein. Et bien sûr, on peut avoir Dieu sur la langue, on peut bénir Dieu sur la langue, mais avoir le cœur éloigné de lui, comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais là, David dit, mais c'est pas simplement avec la langue, c'est pas simplement, voilà. Non, mais c'est plus que ça, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Donc on voit le cœur de David pour le Seigneur, et nous voulons nous aussi, en tant qu'enfants du Seigneur, le bénir. Nous souvenons l'espérance à laquelle nous sommes appelés, nous souvenons que le Seigneur a fait des choses extraordinaires pour nous à la croix, nous souvenons de toutes les bénédictions spirituel, nous souvenons de tous les bienfaits, comme David dira, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Hein. Et c'est pour cela qu'il bénissait l'Éternel. Alors quand on se remémore toutes les grâces, toutes les bénédictions, tous les bienfaits du Seigneur, nous ne pouvons que le bénir. Alors, nous sommes appelés à bénir le Seigneur, mais aussi, et mon deuxième point pour ce soir, c'est que nous sommes aussi appelés à bénir nos semblables. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, verset 9, première épître de Pierre, chapitre 3, verset 9, il est dit ceci, « Ne rendez point le mal pour mal, ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la vie, la bénédiction, excusez-moi. Donc, l'idée de bénir ici, c'est bénir nos semblables. Alors, quand on parle de bénir nos semblables, ça n'a rien à voir, bien sûr, à la dévotion que l'on a pour le Seigneur. Je rappelle que bénir, c'est dire du bien. Alors, il y a une différence, bien sûr, entre bénir Dieu, qui est un acte de cœur, dans l'adoration, dans la louange. Mais là, c'est, en fin de compte, quand on bénit notre prochain, c'est dire du bien de lui ou lui faire du bien. Ou lui faire du bien. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, Pierre, excusez-moi, dit « ne rendez point le mal pour mal ». Donc voilà, même si on y fait du mal, on rend le bien. Et ni injure pour injure. Ah, c'est facile, c'est du tac au tac. On m'insulte, j'insulte. J'allais dire œil pour œil, dent pour dent. Mais c'est pas à ça que nous sommes appelés. Nous sommes à bénir au contraire, à bénir même ceux qui nous font du mal. Et c'est à ça que nous sommes appelés. C'est fort ce que dit Pierre ici. Nous sommes appelés à ça. Et ça rejoint ce que Jésus avait pu dire dans Matthieu chapitre 5, verset 44. Matthieu chapitre 5, verset 44. Je vais lire le passage à partir du verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécute, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voilà un passage où la barre est placée très haute puisqu'il nous est dit à la fin d'être parfaits comme notre Père céleste. Alors ici, Jésus nous rappelle d'aimer nos ennemis et de bénir ceux qui nous maudissent et de leur faire du bien. Alors, nous voulons les bénir. C'est pas évident, c'est pas facile, c'est compliqué. Et il faut parfois qu'il y ait un travail dans notre cœur, qu'opère le Saint-Esprit pour que nous puissions en arriver là, parce que on a peut-être vécu des choses lourdes de la part de quelqu'un. Mais néanmoins, nous voulons les bénir de nos prières, nous voulons les bénir d'une manière générale et leur faire du bien. Se rappelant que, en fin de compte, Jésus a fait pour nous la même chose. Il nous a bénis alors que nous étions ses ennemis. Dieu, alors même qu'on ne se souciait pas de lui, nous bénissait déjà et avait en réserve pour nous toutes sortes de grâces et de bénédictions dont nous pouvons maintenant en jouir. Donc nous sommes appelés à ressembler à notre Père afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. David, pour revenir à lui, n'a jamais maudit Saül. Au contraire, on voit même que lorsque Saül est mort, il a fait un éloge funèbre à son égard. Il a toujours eu beaucoup de respect par rapport à lui, même s'il se restait prudent et même s'il gardait ses distances, parce qu'il savait de quoi était capable Saül, mais néanmoins, il a toujours eu un profond respect pour lui. Et c'est vrai que par rapport à certaines personnes qui nous font beaucoup de mal et qui le font d'une manière répétitive et incessante, notre seule, j'allais dire, possibilité à ce moment-là, c'est de faire un peu comme David, de prendre nos distances. De prendre des distances, mais tout en respectant la personne. On peut bénir la personne par notre respect. En tout cas, en ne gardant aucune rancune, aucune amertume, et David n'a pas gardé d'amertume vis-à-vis de Saül et ce à quoi nous sommes appelés, nous rappelant bien sûr l'exemple suprême de notre Seigneur Jésus qui, sur la croix, a béni ceux qui étaient en train de se moquer de lui, ceux qui lui avaient craché dessus, ceux qui l'insultaient. Jésus était en train de les bénir. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 21, je cite le passage, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Et notre Seigneur est celui qui est notre berger, le gardien de nos âmes. Donc ici, nous avons l'exemple de Jésus qui, injurié, n'a point rendu d'injure. Mais au contraire, il a béni, et il était maltraité, mais il n'a point fait de menace. Il s'en est remis à celui qui juge justement. Donc voilà, c'est notre exemple. Alors je disais tout à l'heure par rapport à David qu'il avait pris ses distances par rapport à Saül et parfois nous n'avons pas d'autre choix. Mais parfois on n'a même pas la possibilité de prendre ses distances. Quelque part on est comme Jésus attaché sur la croix, c'est-à-dire que Jésus ne pouvait pas prendre ses distances. Il était cloué sur la croix. Cloué sur la croix. Et parfois nous aussi on a l'impression que on est dans des situations où on est comme cloué, attaché, on ne peut pas se... La situation est figée, on ne peut pas prendre ses distances, on est obligé de côtoyer et de près parfois même des personnes qui nous veulent du mal. Alors là, notre attitude, elle est d'être comme Jésus. Il a été injurié, mais il n'a point rendu d'injure. Maltraité, il n'a point fait de menace. Par contre, il se confie en son Dieu, en son Père céleste. Il s'en est remis à celui qui juge justement, et il a même dit, et c'est là une grâce, une bénédiction extraordinaire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et quand nous sommes dans cette situation où il y a une situation qui est figée, on ne peut même pas prendre des distances, et qu'on côtoie de près des personnes qui nous veulent du mal, on s'en remet au Seigneur, et on dit au Seigneur, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est ce qui est arrivé à Étienne, qui a pu dire au Père, ne leur impute point ce péché. Donc, et ça, c'est une bénédiction qu'on adresse à nos ennemis. C'est comme des charbons ardents qu'on amasse sur leur tête. On fait du bien à ceux qui nous persécutent. L'apôtre Paul, avait pu écrire dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 12. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Voilà, et on pourrait continuer. Donc voilà l'exemple de Paul. Il était injurié, mais il a béni. Il a béni les autres, il a béni ceux qui l'injuriaient. Il était persécuté, il supportait. Calomnié, c'est terrible d'être calomnié, hein. Qu'on dit du mal de nous faussement, mais il parlait avec bonté encore. Alors, je vais dire c'est facile à lire, et c'est facile à dire, mais il nous faut parfois toute la grâce du Saint-Esprit pour pouvoir le faire. Et que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à être semblable à lui, à pouvoir encore, dans ces circonstances-là, bénir eh bien, ceux qui nous persécutent. On retrouve encore cette même expression dans Romains chapitre 12, verset 14. On ne va pas la lire, mais je la cite juste pour ceux qui prennent des notes. Mais j'aimerais terminer avec un passage dans l'épître de Jacques, chapitre 3. Jacques chapitre 3, verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou des vignes, des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Voilà. Alors, j'ai voulu conclure ce message de dimanche dernier, de mardi dernier, de ce soir, avec ce texte, parce qu'en fin de compte, ici, il est dit au verset 9 que par notre bouche, nous bénissons le Seigneur. Et comme je le disais, nous sommes appelés à bénir notre Dieu et nous le faisons, et nous voulons le faire de tout notre cœur. Mais par elle aussi, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Et de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il n'y en a qu'une bouche. Hein. Il n'y en a qu'une. Et parfois, voilà, ça arrive. Et alors, oui, bien sûr, nous bénissons le Seigneur. C'est pour ça que j'ai voulu parler des deux. Oui, nous bénissons le Seigneur, mais ça va avec aussi le fait de bénir ceux qui sont faits à son image, à l'image de Dieu. Et la même source ne peut pas faire jaillir de l'eau douce et de l'eau amère. C'est pas possible. Donc, et c'est pour ça que Jacques dira, il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères. Voilà. Et je crois que dans la mesure où, comme David, que tout ce qui est en nous bénit le nom du Seigneur, nous bénirons aussi nos semblables. Par contre, si notre bénédiction, si nous bénissons le Seigneur simplement avec la langue et que notre cœur est éloigné de lui, ça c'est certain que nous n'allons pas dire du bien de nos semblables, que nous allons les maudire. Mais nous voulons bénir notre Seigneur et nous voulons bénir aussi les hommes, les femmes qui sont faits à son image parce que nous voulons être cohérents avec nous-mêmes, cohérents avec notre foi, cohérents avec la parole de Dieu que nous voulons mettre en pratique et mettre tout en pratique. Que le Seigneur nous aide, que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans nos cœurs afin que cette source qui est en nous jaillissent pour apporter une bénédiction à nos semblables et pour aussi bénir notre Dieu. Amen.